Accès libre.
Salutations tout le monde.
Bonjour.
Monsieur Jérôme, comment allez-vous?
Écoutez, ça va très bien, même si c'est la dernière co-animation du mois de février.
C'est vrai. Et mais... donc, Linda Gauthier sera assise dans votre... En fait, c'est pas vrai parce qu'elle a, elle, son siège sous ses fesses. Elle sort avec son siège, un peu comme... c'était qui? C'était Panoramix? Non, c'était le chef qui se promenait avec son bouclier, là. À bras raccourcis.
Voilà, ça doit être ça. C'est impossible à prononcer, mais ça doit être ça.
Jérôme, qui est directeur général d'Handicap International, à la mise en onde de Rémi Hermoso, Claudia Benoît aux réseaux sociaux, Anne-Laure Janson à la recherche. Et pour ceux qui l'ignoraient encore, mon nom est Luc Fortin. Aujourd'hui, entre autres, on va s'intéresser à ce programme de l'Institut Nazareth et Louis Braille, et apparemment qu'à l'IRDPQ, on offre le même service à ceux qui ont un très très bon résidu visuel, mais qui sont quand même considérés comme handicapés visuels. Il y a peut-être moyen d'avoir un permis de conduire. Et ça, c'est probablement renversant pour certains, certaines.
On va aussi parler autisme avec Amélie Clément, en fait, qui va nous expliquer comment accompagner professionnellement les personnes qui souffrent d'autisme.
Oui, allez-y.
Et puis, on parlera aussi, excusez-moi, avec Roxane, qui sera en studio avec nous pour nous parler du dépistage précoce des déficiences au Mali.
Vient-elle du Saguenay? Elle a un Tremblay comme nom de famille?
Je crois bien.
OK. Et nous, on ne fera pas de cachette, là. Hier, à Ça vaut le détour, François Beauregard nous racontait un peu son parcours, lui qui est planificateur financier. Alors, j'avais envie de faire avec François sa première chronique, et plutôt que de lui demander de venir deux jours de suite, on l'a fait tout de suite après, donc voici ce que ça donnait. Première présence de François Beauregard du côté d'Accès Libre, François qui va nous aider à maximiser nos acquis. Si acquis il y a, comme on le disait, si vous avez écouté Ça vaut le détour, on a tous un petit acquis à tout le moins. Et tiens, juste pour vous dire, si vous avez envie de connaître son parcours, allez écouter Ça vaut le détour. Sur le web, vous cliquez sur l'entrevue, l'impliquant. Sinon, écoutez donc l'émission au complet. François est directeur en gestion de patrimoine, conseiller en placement chez Richardson. C'est GMP Limité.
GMP, oui,
GMP
voilà.
Limité. Et vous nous parlez de crédit d'impôt aujourd'hui parce que nous sommes en pleine période de préparation des déclarations du revenu. Peut-être qu'on passe à côté de certains avoirs supplémentaires.
Oui, c'est sûr que c'est la saison de la rédaction, la production des déclarations de revenus. Alors, c'est une corvée, un pensum. Certains font ça eux-mêmes. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée. D'autres le confient à d'autres. Mais ce qui est important, c'est de savoir à quoi on a droit. Et comme personne handicapée, c'est certain que la première chose à laquelle on pense, c'est les crédits d'impôt pour les personnes handicapées ou souffrant d'une une incapacité grave. Mais avant de parler de crédits d'impôt d'une sorte, je pense qu'il est important de faire un peu la nomenclature, de décrire le type d'allègements fiscaux qui peuvent exister.
Oui, parce qu'il y a la déduction également.
Il y en a beaucoup, oui, exact. D'abord, la déduction est une somme que l'on soustrait de son revenu imposable. Alors, par exemple, si je cotise à un REER, c'est déductible. Si j'ai des dépenses qui sont reliées au transport adapté ou des choses comme ça, ça peut être déductible. Ça réduit mon revenu imposable. Mais si mon revenu imposable est relativement faible, il est possible que je ne paye pas beaucoup d'impôts en termes de pourcentage par rapport à quelqu'un qui a un revenu plus élevé.
Et donc, les déductions ne servent pas?
Les déductions peuvent être d'un intérêt médiocre.
Oui, oui.
Voilà. Mais c'est sûr que si on y a droit, il faut tout de même les réclamer. Ça, c'est certain. Un crédit d'impôt peut être remboursable ou non remboursable. Voilà. Alors, le crédit d'impôt, qui n'est pas le même du côté du fédéral et du Québec, il y a une différence. Chaque gouvernement a son barème et chaque gouvernement a certains crédits d'impôt qui correspondent à celui de l'autre, mais chacun a aussi des crédits qui lui sont propres. Alors, le crédit d'impôt comme le nom le dit, c'est simplement une escompte sur le montant d'impôt que l'on devrait payer. Alors, dans ce sens-là, le crédit d'impôt et plus égalitaire. Il va permettre une escompte, une économie d'impôts, même si votre total d'impôts payables n'est pas très élevé. Qu'arrive-t-il si vous avez tant de crédits d'impôts que vous ne payez plus d'impôts?
Mais je ne le sais pas, François.
Bien, voilà. Alors, là, c'est là que joue la distinction entre un crédit remboursable et un crédit qui ne l'est pas.
OK, parce que j'allais vous poser la question.
Oui, bien voilà. Alors, d'accord. On y arrive. La plupart des crédits d'impôt sont dits non remboursables. C'est-à-dire que si, en cumulant vos crédits d'impôt, vous arrivez à impôt zéro et qu'il vous reste encore des crédits, eh bien, tant pis, vous ne pourrez pas les utiliser. S'il s'agit par ailleurs de crédits dits remboursables, bien, à ce moment-là, ça crée quasiment un impôt négatif. Ça veut dire que non seulement vous ne payez pas d'impôt...
On va recevoir un chèque?
Voilà. Le gouvernement va vous donner l'équivalent du crédit que votre situation vous a mérité.
Donnez-nous des exemples de crédits remboursables.
Bien, des crédits qui sont remboursables, ça va être le crédit d'impôt pour aidants naturels, par exemple, au Québec. Ça va être le crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés. Ça va être le crédit d'impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie. Ça va être des crédits d'impôt pour les frais médicaux, par exemple. Ça, ce sont des crédits d'impôt qui sont remboursables. Des crédits d'impôt qui sont non remboursables, bien là, ça va être le montant pour personnes à charge, les frais médicaux le montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques, ce qu'on appelle en fait le crédit d'impôt pour personnes handicapées du côté fédéral. Cela dit, il est possible, si on ne peut pas utiliser soi-même pleinement le crédit d'impôt auquel on a droit parce qu'il est de la catégorie non remboursable, il est possible de transférer son crédit à son conjoint ou sa conjointe. Là, évidemment, faut-il encore avoir un conjoint ou une conjointe?
C'est sûr. Mais quand même, c'est intéressant. Je suis curieux, est-ce que la majorité ou la totalité, bien, en fait, on ne peut pas dire totalité, mais la grande majorité des gens qui font des rapports d'impôts savent ça ou il y a justement peut-être certaines exemptions, crédits qui, disons, ne sont pas utilisés parce que la personne ne le sait juste pas.
Oui, bien, il n'y a pas tellement longtemps, je discutais avec quelqu'un dont le métier est de faire des rapports d'impôts et qui souvent voit arriver à son bureau des personnes qui, jusqu'à récemment, faisaient les rapports d'impôts eux-mêmes. Et là, il épluche un peu ce qui s'est fait dans le passé. Et puis, il m'a fait un peu la liste des erreurs les plus fréquentes. Et l'erreur, une des erreurs les plus fréquentes, c'est que les gens n'utilisent pas pleinement la transférabilité des crédits d'impôt vers les conjoints-conjointes. Ça arrive assez souvent. Pour ce qui est du crédit d'impôt pour personnes handicapées, qui demande à ce que vous complétiez un formulaire et également un professionnel dans le domaine de la santé, dépendamment de votre handicap, ça, souvent, ce qui arrive, c'est que les gens pensent que ben, si je le complète, il faut que je le complète à temps pour ma déclaration d'impôt. Si je le fais en retard, je ne peux pas retourner derrière. Or, on peut déposer auprès du gouvernement la demande, l'attestation pour déficience ou personne handicapée, dépendamment du palier de gouvernement. On peut déposer cette attestation, ce formulaire-là, auprès du gouvernement en tout temps. On n'a pas besoin d'attendre que ce soit la saison des impôts.
D'ailleurs, si on envoie notre déclaration en temps et que le gouvernement juge qu'il a besoin de pièces justificatives par la suite, ben, il va nous les demander et tout sera en règle.
Tout à fait.
Donc, il n'y a pas de problème.
Et alors, il ne faut pas attendre nécessairement. L'autre chose aussi, c'est qu'il est possible de retourner derrière. Auprès du gouvernement fédéral, il y a un formulaire, un document qui permet d'amender des déclarations antérieures. Si, par exemple, on produit le formulaire d'attestation pour handicap, il est possible d'amender les années précédentes où cet handicap déjà faisait partie de notre vie.
Bon, revenons aux différents allégements. Lequel serait le plus avantageux dans ce qu'on a discuté?
Bien, c'est sûr que le plus avantageux, ça va dépendre, de la lourdeur de votre situation, je pense que à prime abord, c'est celui pour personnes atteintes d'une déficience grave ou au Québec et au fédéral, ça s'appelle le crédit d'impôt pour personnes handicapées. C'est quand même des montants qui sont substantiels. On parle de 7 766 au fédéral et 2 570 au Québec. Mais là...
La différence est importante.
Oui, mais il faut faire une autre distinction importante. Quand on dit qu'un crédit d'impôt est de 7 766, bien... Ce qui s'applique, l'économie d'impôt au fédéral, c'est 15 % de ce montant-là. C'est 1165. Parce que dans le calcul, et là, oui, je sais, c'est encore un truc tarabiscoté. Dans les crédits d'impôt, ce que l'on fait au moment de la production du rapport, c'est on fait le cumul des crédits d'impôt, et ça peut donner un chiffre de 15 000 ou 20 000 $ parce qu'il y a un impôt, il y a un crédit personnel de base qui est déjà là de 11 000. Et on applique un multiple qui, dans le cas du fédéral, est de 15 % et qui, dans le cas du provincial, est de 20 % Alors, il ne faut pas s'emballer sur le 7 000, je m'excuse. Au net, ouais. Net, au fédéral, l'économie d'impôt pour personnes handicapées est de 1165 $ et au provincial, c'est de 514. Remarquez que si vous additionnez les deux, ben vous êtes déjà là à pas loin de 1700 dollars épargnés. Alors, ça vaut la peine de faire le détour.
François, est-ce que je me trompe ou il y a des circonstances où une personne qui n'est pas handicapée peut quand même réclamer un allègement fiscal destiné à une personne handicapée?
Oui, tout à fait. Bien, tout à l'heure, on parlait de la transférabilité du crédit.
Donc, alors, ce crédit-là peut être transférable, c'est-à-dire le crédit qui du handicap peut être transférable.
Exact. Si, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je suis handicapé visuel, ma conjointe...
C'est pas un exemple, c'est vrai, mesdames et messieurs.
C'est un vrai, oui, c'est un exemple. Un exemple qui est enraciné dans le réel. Oui. Alors, je suis handicapé visuel, ma conjointe Hélène n'a pas d'handicap. Si je réclame le crédit d'impôt pour handicap et que ma situation est telle que je ne paye plus d'impôt et que comme c'est un crédit qui n'est pas remboursable, comme on en parlait tout à l'heure, peut-être qu'il me reste un 500 ou 600 $ que je peux transférer à ma conjointe. Il est également possible pour une personne de réclamer le crédit d'impôt pour personne handicapée si la personne handicapée est une personne qui est à sa charge. Alors, il peut y avoir, la personne qui réclame le crédit peut effectivement ne pas être la personne handicapée.
Oui, 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 oui. OK, un parent ou...
Exact. Mais ce que ça veut dire tout de même, c'est que dans la cellule familiale, il y a des frais qui sont encourus parce que quelqu'un dans la maisonnée a un handicap. Et ça, on le sait, ça coûte des sous.
S'il y a des changements importants dans ma déclaration du revenu, est-ce que vous suggérez que j'aille la première année vers, disons, un comptable chevronné et ensuite on ne fait que... sensiblement la même chose avec notre beau-frère ou le beau-frère peut faire l'affaire la première année?
Bien, votre beau-frère est mieux d'être calé s'il veut trouver un... C'est sûr que ça, faire affaire avec un professionnel dont c'est le métier de faire des rapports d'impôts va vous assurer d'avoir plus... Vous avez certainement droit à un certain nombre d'allègements. Ouais. En faisant affaire avec quelqu'un dont c'est le métier de produire des déclarations d'impôts pour autrui, vous allez optimiser votre déclaration d'impôts. Si on peut la coordonner avec votre conjointe ou avec vos enfants, vous avez des enfants majeurs à la maison, là, y a aussi des possibilités de transfert. Donc, est-ce que ça vaut la peine de payer ce que ça coûte, 150, 300, 500 $ pour faire les rapports d'impôts de la famille par quelqu'un qui s'y connaît, plutôt que par le beau-frère qui a déjà été... vérificateur il y a 30 ans dans une compagnie de
parapluie. Ou qui est bon avec le Quicken.
Ou qui est bon avec Quicken. C'est certain que la venue maintenant de logiciels de préparation d'impôts fait une grande partie du travail.
Ouais.
Et cependant, si vous avez des changements importants dans votre vie, par exemple un changement d'emploi, que vous passez de travailleur salarié à travailleur autonome, un divorce, des choses comme celle-là, une succession qui se règle, consultez et ça va vous éviter des erreurs qui pourraient être coûteuses.
Merci bien, M. Beauregard. On va se revoir avant, justement, que tous aient envoyé leur déclaration du revenu, puisqu'on vous invite mensuellement. Merci beaucoup, Luc Lefrançois.
Ça fait plaisir. Merci.
Be what I mean. Quem deixou me olhar assim? Não pedi minha permissão. Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão.
La brésilienne CO sur Canalem et sur canalem.org. Donc, désolé, monsieur Bobin, je ne sais pas si vous aviez des questions à poser à notre conseiller en placement, mais de toute façon, il était question de crédit d'impôt pour personnes handicapées. Et à moins que j'ignore quelque chose de votre vie, vous n'auriez pas droit à ce crédit d'impôt.
Et non, pas encore.
Mais vous avez quand même le droit de parler à notre prochaine invitée, qui est Amélie Clément. Elle est coordonnatrice des services en déficience intellectuelle et autisme pour l'organisme Action Main-d'œuvre. Amélie, Anne-Laure, recherchiste, m'a dit que vous étiez super dynamique, la barre est haute.
Oh mon Dieu!
Ah, ça a l'air. Bonjour, Amélie.
Bonjour.
Alors, on se posait une première question avec Luc. On se demandait déjà pour travailler avec les autistes. Les autistes, est-ce que c'est toutes les formes d'autisme ou c'est les autistes de haut niveau?
Non, c'est toutes les formes d'autisme. Le spectre est très large. Alors, il y a des gens qui sont très fonctionnels, d'autres moins. Mais pourvu qu'ils répondent à nos critères, aux critères de notre programme. Mais ce ne sont pas nécessairement tous des autistes de haut niveau.
D'accord. Et alors concrètement, les critères de votre programme, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu davantage quels sont ces fameux critères?
Bien, en fait, nous, on est un programme d'intégration et de maintien en emploi qui avons développé une expertise effectivement pour les personnes autistes. Alors, pour répondre à nos critères, la personne doit être motivée et avoir le potentiel de s'intégrer sur le marché du travail. Elle doit être en âge de travailler. Elle doit avoir un diagnostic clair au niveau de l'autisme.
Je vous arrête, Amélie, parce que, bon, avoir le potentiel d'être sur le marché du travail, c'est un peu subjectif.
C'est un peu abstrait.
Ouais, ouais.
En fait, avoir le potentiel de s'intégrer sur le marché du travail, on parle surtout du niveau d'autonomie de la personne. Mmh. Alors, est-ce qu'elle est en mesure de prendre le transport en commun? Est-ce qu'elle est en mesure là, de comprendre ce qu'est un peu quand même la réalité du marché du travail et les attentes des employeurs? Ça, ce sont toutes des informations que nous, on valide, évidemment, sur plusieurs rencontres.
D'accord, je vous laisse poursuivre.
Alors, ben, en fait, ce sont essentiellement les critères. Alors, être autonome au niveau du transport en commun aussi, c'est un critère. Et à partir de ce moment-là, la personne qui rencontre ces critères-là peut être admise à notre programme. Et il y a tout un travail qui va se faire, évidemment, en fonction de ses intérêts, de son niveau d'éducation. Il y a des gens qui ont un doctorat, d'autres qui n'ont pas de secondaire 1. En fonction de toute cette réalité-là, nous, on va l'accompagner vers une démarche d'intégration en emploi et de maintien en emploi également.
Et donc cet accompagnement, il est porté par chaque conseiller, en fait, qui va s'adapter au contexte de la personne. Concrètement, il va apporter quoi, le conseiller?
Tout à fait. Effectivement, vous avez raison de dire que le conseiller va s'adapter à la personne puisque chaque personne arrive ici avec son bagage, avec son expérience, avec ses diplômes et avec ses échecs également. Parce que certaines personnes ont déjà intégré différents emplois, ont vécu plusieurs échecs et peuvent avoir, exemple, l'estime de soi très affectée. Alors nous, les conseillers ici vont accompagner la personne en identifiant d'abord des milieux d'emploi où la personne pourrait se retrouver et être bien. Identifier des secteurs d'emploi va valider justement l'autonomie de la personne, ses capacités, ses compétences. Parfois, on les accompagne vers un choix d'emploi et parfois vers un choix d'études. Certains vont décider de retourner aux études, se diriger vers un autre domaine que celui dans lequel ils ont étudié. On va leur, à l'aide d'exercices, on va leur faire des démonstrations de ce que sont les attentes des employeurs au niveau à la base là, des entrevues, pratiquer des entrevues, parce que ça peut être une difficulté importante, là, ne serait-ce que l'entrevue pour une personne autiste.
Tout à fait.
Alors, on va pratiquer tout ce processus-là. On va aussi, évidemment, la personne est très impliquée dans sa démarche, mais on va faire certaines choses pour elle qui sont vraiment très difficiles. Communiquer avec les employeurs, expliquer le diagnostic, demander si l'employeur a besoin de support au niveau de l'intégration et du maintien.
Ça, vous le faites avant l'entrevue d'embauche? C'est vous qui faites la première approche?
Oui, ça dépend. Ça dépend de la personne. Ça dépend de ce que la personne souhaite aussi. Est-ce qu'elle veut qu'on s'implique jusque-là ou est-ce qu'elle préfère uniquement qu'on soit plus discret, donc moins impliqué au niveau de l'employeur? Ça, tout part de la personne, de son besoin, de ce qu'elle souhaite, de la place qu'elle souhaite que nous, on prenne dans sa démarche.
Est-ce qu'il y a des métiers privilégiés ou est-ce qu'il y a même des talents particuliers que les personnes autistes ont?
Bien, ça, on entend beaucoup que les autistes ont des grandes forces au niveau de la mémoire, par exemple, qu'ils ont un très grand souci du détail et qu'ils peuvent avoir des grandes forces au niveau de l'informatique, notamment. Mais moi, je vous dirais que ça va bien au-delà des capacités informatiques. Moi, je rencontre plusieurs personnes qui ont des forces au niveau artistique, par exemple. D'autres, ça va être au niveau bureautique. D'autres vont être ingénieurs. Alors, tu sais, d'autres n'ont pas d'études du tout. Alors, c'est sûr qu'il y a certaines forces qui reviennent, mais pas chez tout le monde. Et il est faux de croire que toutes les personnes autistes sont informaticiennes ou qu'ils ont tous le bottin téléphonique par cœur en tête.
Combien de personnes vous accompagnez actuellement ou vous avez accompagné depuis le début du programme?
Mais nous, ça fait 10 ans qu'on existe. On a été un projet pilote, là, je vous dirais, les 3 premières années, chapeauté par un comité aviseur. On est en entente de partenariat avec Emploi Québec depuis officiellement, il me semble, bien 7 ans. On accompagne maintenant tout près de, je vous dirais, en emploi par année, nouvelles personnes, à peu près 130 personnes vers le marché du travail ou en retour aux études. Et ce sont des chiffres qui augmentent là, d'année en année.
Amélie Clément est coordonnatrice des services en déficience intellectuelle et en autisme de l'organisme Action Main-d'œuvre. Travaille surtout là, dans la région de Montréal.
Oui.
Amélie, vous avez mentionné l'entrevue et je voulais vraiment m'attarder là-dessus parce qu'il me semble que s'il y a une pierre d'achoppement, c'est là. Si le ou la patronne décide d'embaucher la personne, il me semble qu'après ça, c'est beaucoup plus facile. Je m'explique. On a de la difficulté avec les expressions du visage, le non-verbal. On ne comprend pas souvent, voire presque jamais, le second degré. Donc, il peut y avoir des écueils durant ce moment-là qui pourtant est tellement important parce qu'il est en compétition avec d'autres qui, eux, comprennent le second degré et le non-verbal.
Oui. C'est sûr que vous avez raison de nommer ces difficultés-là parce qu'elles sont très présentes et c'est souvent un obstacle important pour les personnes autistes qui sont très mal comprises. Une des premières choses, je pense, selon mon expérience, qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas prendre personnel. Ces comportements-là. Donc, d'expliquer à l'employeur que c'est pas parce qu'il ne vous salue pas en vous regardant dans les yeux qu'il n'est pas intéressé par ce que vous dites. C'est pas parce qu'il vous répond sur un ton qui ne vous convient pas à vous qu'il est hautain. Alors, ce sont tous des comportements qui sont assez fréquents et que nous, on peut un peu déconstruire au niveau de l'employeur. Pourquoi l'employeur va décider d'embaucher une personne autiste? Parce que vous avez raison, d'autres personnes, le marché est très compétitif, n'auront pas ces problèmes-là, mais ça va souvent sensibiliser une équipe de travail aux réalités de ce que peut être une personne qui a des limitations fonctionnelles. Dans le cas des personnes autistes, ce n'est pas visible, alors on ne le sait pas. Donc, ça va, nous, on va dans les milieux de travail, on va sensibiliser les gens à cette réalité-là, aux difficultés qu'ils rencontrent. Et comme ce sont des gens qui sont souvent très rigoureux et qui s'attardent aux détails, ça, c'est des qualités que les employeurs recherchent. Comme ce sont des gens qui aiment les emplois souvent qui sont routiniers et ils vont être très productifs et avoir un bon rendement dans un emploi routinier, ça aussi, c'est des qualités qu'un employeur peut rechercher et apprécier. Ça peut éviter à l'employeur un important roulement d'employés. Il y en a qui vont nous le nommer clairement, là, les employeurs qui vont dire « mais moi, je n'en peux plus d'avoir embauché une personne à chaque 6 mois parce qu'elle est tannée de faire toujours la même tâche et elle s'en va ailleurs. » Bien, il y a une certaine portion de notre clientèle, nous, qui vont être très contents de faire toujours la même tâche.
Amélie, conseillez-vous à la personne de l'inscrire dans son CV qu'elle est autiste, justement?
Non, ça, je ne le conseillerais pas.
Vous le déconseillez même?
Bien, oui.
Okay. Parfait.
Oui, parce que je pense pas que ce soit une information pertinente inscrite dans le CV au moment où le CV est envoyé. Par contre, il y a certaines personnes qui nous demandent, lorsqu'ils sont convoqués en entrevue, d'appeler l'employeur avant pour expliquer ce qu'est le syndrome d'Asperger, exemple. Et ça, je trouve que c'est une démarche qu'on peut très bien faire et qui n'est pas nécessairement mal perçue de l'employeur. On lui explique que les questions d'entrevue, ce serait bien qu'elles soient claires, qu'il n'y ait pas effectivement de second degré, qu'on ne demande pas à la personne de se projeter dans le temps. Tu sais, la fameuse question, là, où vous voyez-vous dans 5 ans, là, bon, est un peu inutile. C'est une personne autiste, là, qui ne comprend pas pourquoi il demande ça. On prépare un peu l'employeur à ça. Puis je vous dirais que dans certains milieux, là, pour ne pas dire tous les milieux, les outils qu'on développe, l'approche qu'on a auprès des employeurs, elle est gagnante pour tout le monde. Parce que des consignes claires, une tâche claire, parfois qui a besoin d'être morcelée, un environnement de travail adéquat, c'est gagnant pour tout le monde, pas juste pour la personne autiste.
C'est vrai. Donc, s'il fait ses devoirs, tout le monde en sortira grandi. Amélie Clément, merci
Absolument. Beaucoup.
Merci.
Ça m'a fait plaisir.
Elle est coordonnatrice des services en déficience intellectuelle et en autisme de l'organisme Action Main-d'œuvre. On va causer Mali et handicap avec Roxane Tremblay d'Handicap International. À tout de suite.
Vous écoutez Accès libre.
Avec Jérôme Bobin, Roxane Tremblay, qui vient de Baie-Saint-Paul.
Bonjour.
Et non de Saguenay.
C'est quand même pas Saguenay, hein?
Non, mais quand même, vous avez raison qu'une fois qu'on prend le cours d'eau, là, on est plus très loin.
On est sur le bon
à l'embouchure.
Chemin.
Ben oui, tout à fait. Roxane, que vous connaissez bien, elle qui est responsable des financements institutionnels chez Handicap International Canada. Et vous vouliez nous parler du Mali, Monsieur Bobin et Mme Tremblay.
Et tout à fait, je trouvais que c'était la bonne occasion d'avoir Roxane ici en studio pour nous parler du programme de dépistage des précoces des déficiences que nous menons au Mali. Bonjour Roxane.
Bonjour Jérôme, bonjour Luc.
Salut.
Alors, si tu peux nous dire un petit peu, pour dresser la table, quelle est la situation globale des personnes handicapées au Mali?
Oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le Mali compte parmi un des pays les plus pauvres du monde. Donc, on estime à environ 70 % de la population qui vit dans une pauvreté extrême. Selon les données de l'OMS, en général, on dit que 10 % de la population dans chaque pays vit avec un handicap. Pour le Mali, c'est environ 15 %. Donc, c'est une donnée assez élevée. Bien évidemment, dans un pays comme le Mali, où tout le monde vit dans une situation précaire, les personnes vivant avec un handicap vont être encore plus dans la précarité. Donc ça se traduit par pas beaucoup d'accès aux soins, à l'éducation, aux services sociaux et encore moins à l'emploi. Mm-hmm. Il faut dire qu'il y a quand même une lueur d'espoir, là. C'est pas, tout n'est pas noir, mais le Mali a été un des premiers pays au monde à ratifier la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Je pense que c'était le 20e pays à l'avoir ratifié. Et également, il y a beaucoup de groupes d'associations qui se mobilisent pour faire valoir les droits des personnes handicapées au Mali.
D'accord. Alors, dans ce contexte que tu nous décris, Handicap International a mis en œuvre un programme de dépistage précoce. Comment ça se passe exactement?
En fait, c'est ça. C'est un projet qui était sur deux phases. Donc, la première phase s'est déroulée de 2010 à 2013. Et là, il y a une deuxième phase en cours qui se déroule de 2014 à 2018. Handicap International travaille toujours de concert avec les organisations existantes, donc les institutions qui sont présentes. Au Mali, il y avait déjà des institutions qui faisaient du dépistage précoce. Donc, ce qu'on cherche à faire, nous, c'est renforcer ces systèmes-là déjà existants. Donc, en premier lieu, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ciblé les structures avec lesquelles on allait travailler, donc les centres de santé, les écoles, les directions, les ministères. Et ensuite, on a bonifié ou mis ou rédigé un curriculum qui prenait en compte la détection de tout type d'handicap, donc visuel, auditif, paralysie cérébrale, pied bot, etc. Et on a formé les différents intervenants qui vont faire le dépistage par la suite.
Et concrètement, pour la déficience visuelle, qui nous intéresse davantage aujourd'hui?
Concrètement, ce projet-là s'est adressé plutôt dans les écoles. Donc, dans un premier lieu, ce qu'on a fait, c'est qu'on a formé les enseignants à dépister ou à déceler les signes qui pouvaient montrer que des élèves avaient une déficience visuelle.
Comme par exemple?
C'est des élèves souvent qui vont peut-être sous-performer. Souvent, ils vont avoir la difficulté à lire. Ça va être très difficile pour eux de réécrire, par exemple, une leçon et ils vont avoir une attention réduite.
Mais Roxane, je trouve ça intéressant et peut-être bénéfique de pouvoir dépister, mais est-ce que par la suite, le Mali a la structure pour accueillir tous ces enfants avec un handicap ou on les laisse quand même par obligation dans le système régulier? Tout ce qu'on a, c'est des rapports.
Lorsqu'on dépiste les enfants, on cherche à les référer. Donc, il existe au Mali des structures spécialisées pour les déficiences visuelles. Également, nous, on va aller renforcer ces structures-là, mais on ne les laisse pas dans le système comme ça. Par exemple, dans le cas de ce projet-là, il y a des enfants qui ont reçu des prescriptions pour avoir des lunettes et ils ont reçu des lunettes par la suite. Donc non, on ne les laisse pas comme ça. Oui, on les dépiste. Et si la famille veut bien, parce que des fois, il y a des familles qui, par tradition, culturellement, refusent, on peut les prendre en charge et le système peut les prendre en charge. Oui.
On s'entend que le dépistage est justement fait pour pouvoir après adresser le problème et faciliter l'éducation finalement de ces enfants pour leur permettre de suivre la leçon un peu plus facilement.
S'il y a une structure, ça va, mais il y a des pays où la structure est somme toute assez limitée. D'ailleurs, est-ce que ce que l'on fait dans le dépistage, c'est qu'on aide quelqu'un qui a déjà un assez bon résidu visuel à voir un peu, ou on peut même référer vers peut-être l'enseignement du braille, l'enseignement de l'utilisation d'une canne blanche ou...
Ça, c'est une très bonne question, Luc. Je ne suis pas une spécialiste, il faudrait voir. Mais par contre, si vous voulez, je peux poser la question au terrain, puis peut-être Jérôme pourra vous transmettre l'information à ce niveau-là. Mais pour le projet, celui dont on parle maintenant, je pense qu'on ne parle pas d'enfants qui sont carrément...
Sévèrement.
Okay. C'est vraiment ceux qui ont des problèmes de vision et que les lunettes peuvent régler, finalement.
Ouais.
Et pour faciliter justement l'attention en classe et puis de suivre les cours, c'est vrai que la déficience lourde et pas traité par ce projet-là. Pour conclure sur cet aspect, quelles sont les perspectives finalement au Mali?
C'est certain, comme je vous ai dit au début, le Mali est un pays très, très pauvre. Pour sortir ce pays-là de la pauvreté, il va falloir beaucoup de travail. Afin d'améliorer les perspectives pour les enfants handicapés, les handicapés en général, il faut travailler fort à justement développer et solidifier des programmes de dépistage précoce et de prise en charge. Donc, pour la prochaine phase, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va aller agir à un niveau communautaire, c'est-à-dire que les enfants vont pouvoir être suivis à domicile et par des agents de la santé et même la famille
Oui. Est-ce que c'est un programme qui est à la grandeur du pays ou dans certaines régions importantes?
Non, on parle en fait de la commune de Bamako et de Sikasso. Donc, c'est deux...
Qui représente?
Mon Dieu, je pourrais pas vous dire les chiffres, mais encore là, si...
Est-ce que Sikasso est un grand centre ou...
Oui, c'est une grande commune. C'est un grand, une grande région, effectivement, okay. du Mali.
Et Bamako, évidemment, la capitale.
Exactement.
Mmh. OK.
Merci, Roxane.
Oui, avant de terminer, j'aimerais juste remercier l'équipe d'Handicap International qui travaille très fort sur le terrain pour mettre en œuvre les projets, plus particulièrement Victor Diassana, qui est notre chef de projet depuis 5 ans et qui m'a présenté le projet avec passion, et aussi Caroline Bolz, qui est la coordonnatrice santé et réadaptation, qui coordonne le tout et qui m'a transmis des informations très précieuses. Merci.
Racoleux. merci, Roxane. Je vous invite à rester avec nous pour voir qu'est-ce que votre patron a disons, considéré de ce dernier mois, parce que Jérôme avait envie de faire un exercice intéressant que je n'ai pas suggéré à aucun co-animateur depuis qu'on a adopté ce modèle-là, à savoir un petit retour.
En effet, Luc, pour clore ce cycle de co-animation à vos côtés, j'avais envie qu'on prenne un peu le temps justement de s'arrêter sur ce mois passé ensemble. On est tous conscients qu'un sujet chasse l'autre et que, qu'à peine un sujet traité, il y en a un tout nouveau. Mm-hmm. Mais je trouve que ça fait du bien de temps en temps de faire marcher la boîte à souvenirs un petit peu.
Qu'est-ce que vous retenez donc?
Première émission, on est tout début février. Je me souviens que pour le transport adapté de la STM, a priori, les loisirs ne seraient pas aussi importants que le travail ou les études. Ouais. On peut en douter. Je retiens aussi que les bureaux de la Commission des droits de la personne à Québec ne sont pas si accessibles que ça. Mm-hmm. Ce qui est quand même un peu gênant pour l'exercice des droits
beaucoup.
Des citoyens, ouais. notamment des citoyens en situation de handicap. Je garde du côté d'Handicap International l'info qu'avant le séisme, on parlait de 13 physiothérapeutes. On s'attend maintenant à avoir 70 techniciens en réadaptation et en orthoprothésie. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Oui. On bascule sur la deuxième émission. C'était la veille de la Saint-Valentin. Donc, c'était une émission pleine d'amour avec notamment Geneviève Labrec, qui est la mère d'un enfant trisomique et qui nous a rappelé combien la stimulation et la participation des enfants pouvaient changer la donne dans ce contexte-là. Je me souviens aussi qu'on a parlé santé mentale avec Sarah, qui nous a alerté sur le nombre grandissant de personnes concernées au cœur des crises dans lesquelles Handicap International intervient. Et puis, comme on aime beaucoup la non-accessibilité des transports chez Accès Libre, on s'est aussi rendu compte que même sans calculatrice, on arrivait à compter facilement la petite poignée de gares accessibles sur les 52 stations qui composent le réseau de l'AMT.
Sur une seule main.
Et sur une seule main, donc c'est bon, on fait des économies au niveau calculatrice.
Ouais.
La semaine dernière, vous vous souvenez, on a eu Daniel Carmichael avec nous et ses fameux boys ingénieurs qui rêvent que d'une chose, c'est de faire décoller son fauteuil roulant. Mm-hmm. Donc ça, c'est à découvrir sur YouTube, sur la chaîne Assis sur ma chaise. On s'est entendu aussi avec Audra de Worldwide Hearing Foundation, qui va devenir la bête noire des fabricants d'appareils auditifs puisque l'organisation propose des systèmes 20 fois moins chers que la normale. Donc c'est la fin du petit commerce, comme on dit chez nous. Et puis, on a avancé avec précaution avec Mathieu, le chef de projet des minages de Handicap International en Colombie, qui nous a expliqué l'ampleur de la tâche dans ce pays qui sort quand même de 50 années de conflits internes.
Ouais. Avez-vous pris contact avec Audra ou avez-vous depuis lors... parce que, évidemment, c'est ça qui est intéressant avec la co-animation, c'est que les gens de différents organismes qui viennent ici croisent des gens qui peut-être autrement ne se croiseraient pas. Et là, ben, il y a du réseautage qui se fait. Je sais que Jérôme a donné quelques cartes d'affaires durant le dernier mois.
Oui, oui, tout à fait. J'ai bien empilé toutes ces belles opportunités. Et puis, on va travailler là-dessus sur les prochaines semaines. Moi, j'avais envie de terminer aussi en disant que cette lutte autour de l'accessibilité qui est au cœur en fait, des émissions Accès Libre, finalement, c'est quoi? C'est la manifestation de l'envie d'accueillir l'autre et de faire participer l'autre. Et je dois dire avec une petite pointe d'émotion que cette envie d'accueillir, elle coule dans les veines de tous les gens qui font cette émission. Je pense à Anne-Laure, à la recherche, je pense à Rémi et Jean-Sébastien à la technique, Claudia aux réseaux sociaux, Louise à la direction de la station. Et puis bien sûr, vous, Luc, bouillonnant, incontournable et qui êtes bien plus que la voix de ce programme. Alors, j'avais envie de vous dire merci de nous avoir et de m'avoir accueilli au sein de votre jolie famille pendant un mois.
Ben, c'est gentil et apprécié parce que ça faisait longtemps que vous et moi, on se disait « Ah, ce serait agréable de le faire ». Puis, à pied levé comme ça, comme je le disais au début du mois, vous n'étiez pas nécessairement prévu, mais il y a eu des changements et ça nous a finalement donné l'occasion de le faire, ce partage-là ensemble. Et qui sait, on Déjà, personnellement, on regarde nos agendas pour, à l'extérieur du 9 à 5, se revoir. Donc, personnellement, ça aura peut-être été également très, très productif.
Tout à fait.
Là, il y a quelque chose d'assez spécial. Anne-Laure me disait que déjà, il y a 10 ans, il y avait projet pilote sur la possibilité d'offrir aux handicapés visuels que l'on aime appeler de luxe, à savoir avec un bon résidu visuel, l'occasion d'obtenir le permis de conduire. Et semble-t-il que, suite au projet pilote, il y a eu quelques années d'attente, et depuis 2011, à Québec 2013, ben là, on offre ce programme et on va en causer avec Annick Gem, qui est responsable du programme provincial de développement des habiletés compensatoires avec l'utilisation du système télescopique bioptique à l'Institut Nazareth et Louis Braille, tout de suite après Faulkner et les premières phrases, probablement, caractérise tout à fait l'émotion que ces gens qui finalement obtiennent le permis ressentent.
Si j'avais un char, ça changerait ma vie. J'irais me promener sur le bord de la Gaspésie. Si j'avais un char, ça changerait ma vie.
Quel beau hasard! Je dis beau hasard parce que j'ai cherché cette version une bonne partie de la matinée. J'ai même appelé une amie animatrice dans une autre station en lui demandant « Peux-tu m'envoyer le fichier de la version d'Antoine Graton de « Si j'avais un char » ?» Et c'est un hasard parce qu'ici, elle était identifiée dans l'ordi sous Steve Faulkner. Alors, finalement, hein, tout va bien, qui finit bien. Annick Gem, bonjour!
Bonjour!
Comment allez-vous?
Ça va très bien, merci.
Marc Chaput, bonjour.
Oui, bonjour.
Marc, lui, a son permis et Annick est comme l'instructeur, si on veut. Quand on écrit « élève au volant », là, c'est comme si elle était assise à sa droite. Elle est responsable du programme provincial de développement des habiletés compensatoires avec l'utilisation d'un système télescopique bioptique à l'Institut Nazareth et Louis Braille. Annick... Bon, je sais que vous ne faites pas partie des cours de pilotage en tant que tel, mais parlez-moi un peu de ce programme qui existe déjà depuis un certain temps et pourtant, il n'y a pas si longtemps, moi, que j'en connais l'existence.
Oui, en fait, c'est un programme qui vise à développer les habiletés compensatoires pour la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile avec, entre autres, le système télescopique bioptique. Donc, c'est une offre de services en réadaptation en déficience visuelle qui fait en sorte qu'on vient développer les habiletés visuelle de la clientèle. On essaie d'optimiser toutes leurs capacités dans le but de rendre possible la conduite d'un véhicule.
Et télescopique bioptique, c'est quoi? C'est un outil, ça?
C'est un outil. C'est un petit télescope qui est monté dans le haut d'une lunette et qui permet d'améliorer l'aptitude à voir les détails.
On peut utiliser on doit partir avec quel type de résidu visuel pour se qualifier?
En fait, c'est vraiment adressé à une clientèle très spécifique. Ouais. Donc, c'est une clientèle qui doit avoir un pronostic visuel stable. Donc, ça ne doit pas être une maladie dégénérative. Et c'est des gens qui doivent avoir un champ visuel complet. Donc, aucun problème au niveau du champ de vision. Mmh. Et bien entendu, il y a une limite aussi au niveau des acuités visuelles qui doit être respectée. Donc, ça s'adresse vraiment à un nombre restreint de personnes pour faire en sorte que la conduite auto est possible.
C'est vous qui faites l'examen ou les gens arrivent avec les résultats de leur optométriste?
En fait, c'est les optométristes du centre de réadaptation qui sont spécialisés en basse vision.
Donc, on refait l'examen avec l'optométriste du centre de réadaptation.
Oui, tout à fait. Et c'est aussi avec eux qu'on peut attribuer l'aide télescopique bioptique qui est très personnalisée d'un individu à l'autre aussi.
De toute évidence, Marc Chaput, vous avez été capable de lire les petites lettres?
Oui, oui, en effet, avec l'aide justement de cet outil fantastique, ça nous permet d'accomplir des choses qu'on réussit pas à accomplir avec notre simple lunette.
Aviez-vous déjà conduit peut-être dans une vie antérieure ou c'est nouveau?
Non, c'était nouveau, non, autrement que juste peut-être à l'âge de 15 ans dans un stationnement, ouais. Non, pas du tout.
La différence entre peut-être ce qu'une école de conduite va faire, Annick, et ce que vous allez faire?
En fait, c'est une collaboration. Nous, on est avant l'école de conduite. Donc, notre mandat vient vraiment dans le but de développer les aptitudes visuelles. Alors, avant même que le cours de conduite débute, il y a un processus de réadaptation qui est entamé et qui est assez intensif. Donc, on demande à la personne de venir en entraînement visuel une demi-journée par semaine pendant pratiquement 3 mois. Et après ça, lorsque les habiletés visuelles sont bien développées, commence les cours de conduite, le même cours de conduite qui s'adresse à la population en général. Et nous, on s'insère en tant que spécialiste en déficience visuelle avec l'instructeur de conduite à l'occasion pour venir consolider les acquis des personnes.
Je ne sais pas si vous étiez là au début ou si vous avez peut-être entendu des oui-dire, mais j'imagine que les instructeurs, au départ, là, ils devaient être assez nerveux d'être assis à la droite d'un gars qui a un télescope dans l'œil.
En fait, il y a eu une sensibilisation de fait à ces instructeurs-là. Donc, on travaille vraiment toujours avec la même école de conduite. Donc, ce sont des instructeurs qui ont été formés, sensibilisés, qui connaissent notre clientèle.
Oui, mais quand tu es assis à droite, là, puis que le gars a le volant dans les mains, tu as beau être sensibilisé, il me semble que...
Oui, mais en même temps, c'est des gens qui sont très habitués à enseigner à des jeunes conducteurs qui n'ont aucune expérience de conduite, donc ils sont quand même capables de vivre plusieurs expériences.
Jérôme, vous le feriez, vous?
Écoutez, j'oserais, oui, j'essaierais. Par contre, j'avais une question, Annick, le système télescopique bioptique, donc il reste après tout le travail que vous faites avec la personne, j'imagine qu'on le garde ad vitam pour conduire.
C'est un prérequis pour avoir accès à la conduite auto. Donc, lorsque la personne a son permis de conduire, elle a comme condition qu'elle doit porter une lunette qui a un système bioptique.
Et alors, puisqu'on est, à l'aube de bouleversements en termes de technologie, est-ce que c'est envisageable que ce système-là, donc donné par le système télescopique, soit un jour intégré au pare-brise, c'est-à-dire transformer les voitures avec une aide visuelle dans les pare-brises?
Comme vous dites, je pense qu'on est à l'aube des technologies et que tout est possible dans l'amélioration, la bonification de tous les systèmes. Donc, oui, c'est sûr qu'on est toujours au fait de ce qui pourrait être possible d'être réalisé. Là.
Marc, Annick disait, bon, ça prend quand même un champ de vision parfait. Qui dit télescope dit champ de vision plus étroit, plus rapetissé. Est-ce que le télescope est quand même suffisant pour nous donner la confiance nécessaire pour aller sur la 40?
Oui, en fait, il faut d'abord comprendre que lorsqu'on conduit la voiture, on n'a pas toujours l'œil dans le télescope. Le télescope est vraiment une aide très, très occasionnelle à des moments bien précis pour pouvoir aller chercher un détail. Par exemple, un nom sur une sortie d'autoroute ou un numéro de sortie d'autoroute lorsqu'on conduit, mais c'est vraiment un minime pourcentage d'utilisation. Donc, la plupart de la conduite automobile se fait avec ma lunette normale et le télescope vient sortir, vient chercher certains détails additionnels pour une très courte période de temps. Donc, on parle d'à peu près une seconde à la fois là, où est-ce qu'on va aller porter l'œil dans le télescope pour aller chercher le détail. Donc, parce que oui, sinon vous avez raison que si on avait toujours l'œil au niveau du télescope, bien, l'avantage d'avoir un champ visuel parfait ne sert plus à grand-chose. Ouais. Donc, effectivement, c'est une seconde à la fois où est-ce qu'on va chercher un détail dans le télescope. Immédiatement après, on revient avec le champ de vision parfait puis la vision dans la lunette normale.
Donc, êtes-vous en train de me dire que toutes ces années, peut-être qu'on a refusé le permis à des gens qui auraient pu conduire parce que, somme toute, ce n'est qu'une seconde ici et là qu'on a besoin d'un outil?
En fait, oui, cette seconde-là est quand même importante. Donc, ça nous permet d'aller chercher vraiment la portion, effectivement, qui est quand même nécessaire à la conduite.
Mais laquelle? Voir les affiches?
Oui, c'est surtout ça, en fait, voir les affiches, voir au loin sur une autoroute, peut-être devoir aussi anticiper un peu plus à l'avance l'arrivée d'une courbe au loin, l'arrivée de je sais pas, peut-être d'un véhicule en sens inverse sur des routes de campagne, des choses comme ça. Donc, ça nous permet quand même d'aller chercher là, le petit 5-10% de détails là, qui nous permet d'avoir la conduite sécuritaire là, à ce moment-là du véhicule. Mais effectivement, le reste de la... Dans peut-être, je vous dirais, 90 % du reste des situations, notre vision nous permet quand même de fonctionner et complémenter, je dirais, avec l'entraînement qu'on a eu du centre de réadaptation là, dont Annick faisait mention tout à l'heure.
Et Marc, le fait d'activer ce télescope, là, la seconde, ça joue pas un rôle sur l'attention au volant, parce qu'on sait que les autorités sont très vigilantes à l'usage, par exemple, de téléphones portables, des choses comme ça, tout ce qui dévie l'attention. Est-ce que l'usage de l'appareil est pas gênant?
Ça fait partie de l'entraînement, donc pourquoi ce télescope-là est exclusivement offert dans le cadre d'un programme de réadaptation comme ça, c'est effectivement pour s'assurer que les utilisateurs de cet instrument-là l'utilisent de la bonne manière.
Et il est fixé à la lunette.
C'est fixé à la lunette, ouais. Oui.
Donc, il n'y a pas de manutention.
Il suffit vraiment juste de faire un très léger mouvement de la tête là, pour aller porter l'œil dans le télescope. Pupille, c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très rapide à faire. Mais c'est monté directement dans la lunette, en effet. Puis, on a les entraînements nécessaires justement pour s'assurer que c'est sécuritaire et qu'on ne garde pas l'œil fixé dans le télescope parce qu'effectivement, ça deviendrait distrayant et puis ça pourrait être dangereux même. Donc, ça fait partie intégrante de l'entraînement qu'on a avec l'Institut.
Je vous pose la question aux deux. Quelle est peut-être la difficulté la plus importante?
Je peux peut-être répondre. En fait, c'est souvent... Moi, je pense que la difficulté la plus importante, c'est de surmonter, c'est de développer sa confiance. Mm-hmm. Parce que depuis qu'on est tout petit, moi, je suis né, ma pathologie, elle est congénitale. Donc, depuis que je suis tout petit, ben, je suis tagué un peu. J'ai l'étiquette d'un handicapé visuel, entre guillemets. Donc, tout le long de ma vie, j'ai dû faire des compromis, composer avec justement cette problématique-là.
Annick, est-ce que ça se voit dans la majorité des gens qui vont à vous?
C'est certain que c'est un très grand défi pour la clientèle de devoir apprendre une nouvelle habileté. Défi d'autant plus qu'il est très exigeant parce qu'il est multisensoriel, si on veut. Donc, la personne doit être en mesure de contrôler un véhicule, de garder son attention sur les risques potentiels, de regarder comme il faut, de répondre au code de la route. Donc, oui, c'est certain que c'est exigeant, d'où l'entraînement qui qui est donné en prérequis là aussi, qui permet de venir consolider tout ça et faire en sorte que la personne arrive avec une confiance quand les cours de conduite débutent.
Là, il y a une centaine de noms sur la liste d'attente. En général, c'est quoi le pourcentage des gens qui se qualifient sur le nombre de personnes qui espèrent se qualifier?
En fait, c'est sûr que les critères sont d'emblée très bien expliqués à la clientèle en général qui reçoivent des services en réadaptation. Donc, on parle peut-être d'un 25 % de gens qui peuvent s'adresser à nous pour avoir de l'information à la base et qui, malheureusement, ça ne fonctionne pas parce qu'ils ne répondent pas à des critères de stabilité visuelle ou qu'ils ont des problèmes au niveau du champ visuel.
Et avec une liste de 100 personnes en attente, combien de personnes aidez-vous par année?
En ce moment, on est en mesure de pouvoir desservir une douzaine de personnes annuellement.
OK. Ça existe à Québec également.
Exactement. Donc, c'est un programme qui est provincial. Alors, l'Institut Nazareth et Louis Braille est responsable de l'ouest de la province et l'Institut de réadaptation en sciences physiques de Québec est responsable de l'est de la province. Donc, c'est exactement la même programmation qui est offerte à la clientèle et selon l'endroit de résidence, c'est ce qui détermine quel centre va avoir l'offre de service.
Alors, question de boucler la boucle, Marc Chaput, si je comprends bien, à la fois, vous avez votre permis de conduire, dernier sujet de l'émission, et le crédit d'impôt de la personne handicapée, premier sujet de l'émission.
Oui, en effet.
Alors, le gars, il est quand même assez chanceux. Marc Chaput, donc, détenteur d'un permis de conduire. Annick Gem, elle, responsable du programme provincial de développement des habiletés compensatoires. Et en tout cas, c'est tellement long, il ne me reste plus de temps. Merci beaucoup, Annick. Et
merci
Marc,
beaucoup.
Soyez prudent sur la route et bonne route.
Merci beaucoup.
Jérôme Bobin, on se reparle. À tout le monde, bonne semaine, à bientôt.
Bye.